De retour de Paris, c'est le député de la première circonscription, Nicolas Metzdorf, qui était vendredi midi l'invité du magazine Transparence, extrait dès le début de ce journal. Le conseil politique de l'éveil océanien, il s'est réuni hier à Païta, conseil politique lors duquel le parti a présenté ses candidats aux prochaines élections municipales. Un franc succès ce matin au marché du 7e kilomètre, une semaine après la réouverture de la pêche. Les picots et les crabes ont été victimes de leur succès. Les vendeurs ont été littéralement dévalisés. Sébastien Lecornu défend sa méthode et dresse le cap des prochains mois dans un grand entretien accordé à la presse régionale. Il promet un remaniement d'ici 15 jours. Et puis le sport, les Jeux Olympiques d'hiver, c'est parti à Milan-Cortina. Pas encore de médaille pour l'équipe de France, mais ce soir, le camp tricolore compte de solides espoirs sur le biathlon et en patinage de vitesse. Et soyez les bienvenus dans ce journal. Nicolas Metzdorf, très offensif, de retour sur le territoire après avoir participé à Paris aux discussions qui ont abouti, vous le savez, à l'accord complémentaire Élysée-Oudinot. Le député de la première circonscription était vendredi midi l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence, Michael Juneski.
Lors de la séquence à l'Élysée le 16 janvier, quand les délégations politiques avaient été invitées pour reprendre les discussions autour de l'accord de Bougival, Nicolas Metzdorf s'en était pris très vivement à l'État, au Parlement, à l'administration. Il s'est expliqué sur le ton de son intervention.
Les derniers référendums ont eu lieu il y a longtemps maintenant. Le dernier, c'était en 2021, c'était il y a 5 ans. Et on n'a toujours pas réussi à modifier la Constitution pour entériner les accords politiques qu'on a trouvés et qu'on n'a pas réussi non plus à ouvrir le corps électoral comme c'était prévu la dernière fois. Tout ça parce que à la fois les gouvernements successifs, mais aussi le Parlement, le Sénat et notamment l'Assemblée nationale, ont peur des violences sur place. Le problème, c'est que la peur ne résout rien et qu'aujourd'hui, ça nous entraîne dans une crise économique et sociale sans précédent. Donc moi, j'ai tenu à dire au président de la République que ça commençait à suffire, que nous, on avait suffisamment attendu comme ça et que désormais, l'État devait prendre ses responsabilités. Enfin, pardon, mais moi j'ai signé 3 accords. J'ai signé Bougival, Élysée-Oudinot et l'accord de relance économique. Enfin, on a fait des concessions énormes. Je trouve que nous, on a fait notre part du travail. Et si c'était pour nous entraîner encore plus loin que ce qu'on a déjà concédé pour faire plaisir aux absents du FLNKS, il ne fallait pas compter sur nous.
Le FLNKS n'était pas autour de la table des discussions et depuis, l'UC a confirmé son rejet de Bougival et d'Élysée-Oudinot. Dans ce contexte, Nicolas Metzdorf estime qu'aujourd'hui, il faut avancer malgré l'opposition des dirigeants du FLNKS.
Mais nous, on fait pas sans eux, c'est eux qui font sans nous. Nous, on est là, on avance, on discute, on les invite, ils viennent pas. Après, ils veulent faire une visio une fois qu'on est tous là-bas. Enfin, ça fait combien de temps que le FLNKS joue à la chaise vide? Faut qu'on avance, regardez l'état du pays. Une crise économique et sociale sans précédent. On n'a pas aujourd'hui le luxe, le confort d'attendre. Et moi, c'est ça que je reproche aujourd'hui à l'Union calédonienne. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à sacrifier leur propre population pour essayer d'obtenir l'indépendance coûte que coûte. Enfin, pardon, mais aujourd'hui, ceux qui souffrent peut-être le plus encore dans la population de la crise économique et sociale, c'est certainement l'électorat de l'Union calédonienne. Et ils sont prêts à les sacrifier pour leur doctrine et pour leur idéologie. Donc, à un moment donné, il faut dire stop, parce qu'aujourd'hui, ce qui compte pour les Calédoniens, c'est de retrouver des perspectives, de la stabilité, de l'investissement, de la consommation, et que on puisse reprendre une vie normale où tout le monde regagne un minimum d'argent et puisse vivre dignement. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, oui, effectivement, il faut qu'on avance sans le FLNKS. S'ils ne veulent pas venir, tant pis pour eux.
Le député de la première circonscription qui a été interrogé sur l'accord de Kanaky, le projet du FLNKS, qui a été rendu public cette semaine.
Le problème du projet du FLNKS, c'est que c'est de l'idéologie, c'est de la doctrine, il n'y a rien de concret. On ne sait pas comment il règle les problèmes économiques, sociaux, d'éducation, de santé. Tout ce qu'on a traité dans Bougival, il ne le traite pas. Il ne parle que de décolonisation, de dignité, de liberté, mais on voit très bien qu'il n'y a pas de projet concret derrière, ça reste des grandes idées. Et la deuxième chose, c'est que ce n'est même pas le FLNKS qui le présente, ce projet de Kanaky. C'est NC Première qui fait le service à présent du FLNKS, sans que le FLNKS n'ait demandé quoi que ce soit. Un jour, on découvre que NC Première a l'accord de Kanaky. Moi, vous savez quoi? Ils ne nous l'ont jamais présenté, l'accord de Kanaky, le FLNKS, en réunion, en discussion, ni à Bougival, ni à Deva, ni à Élysée, ni à Oudinot. Et là, c'est NC Première, avec ses journalistes, qui sort sur les réseaux et qui dit, vous savez quoi? Nous, on a le projet de Kanaky, attendez, on va vous l'expliquer. Donc, moi, je suis très content de voir que NC Première est devenue l'agence de communication du FLNKS.
Nicolas Metzdorf est revenu aussi sur le fond de l'accord Élysée-Oudinot, qui a permis, dit-il, d'éclairer les choses et de préciser ce qui avait été décidé à Bougival. Il insiste aussi sur le volet concernant la relance économique et sociale.
On ne rembourse plus les prêts qui ont été octroyés à la Nouvelle-Calédonie. J'entendais tout à l'heure Christopher Gigès qui disait que grâce à ça, on allait pouvoir aider enfin le Medipôle et tout le système de santé de manière générale, qu'on allait travailler sur ce contrat de désendettement à la fin de l'année pour transformer les prêts en subventions, qu'il y allait avoir une aide de 15 milliards au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et que les régimes sociaux, retraite notamment, seraient sauvés par l'État cette année. Et ensuite, on a bien évidemment parlé du soutien aux usines pour sauver notamment l'usine de la SLN et PRNC. Donc voilà, on voit qu'on a eu aussi à cœur, nous les élus calédoniens, contre l'État, il faut le dire, des gros moments de tension contre l'État. On s'est mis tous ensemble, les signataires de l'Élysée Oudinot, pour dire, nous maintenant, on a besoin que l'État prenne ses responsabilités pour faire en sorte que la Calédonie ne sombre pas encore plus dans une crise économique et sociale.
Et le député de la première circonscription relève que l'ensemble des délégations calédoniennes ont insisté auprès de l'État pour la signature de ce volet économique et social. Mais il affirme aussi que s'il n'y a pas d'accord et pas de stabilité politique, il n'y aura pas cette aide de l'État. Et il insiste sur le processus parlementaire qui va s'ouvrir en espérant qu'une majorité des 3/5 se dégage au congrès de Versailles pour intégrer l'accord de Bougival dans la Constitution. Nicolas Metzdorf a aussi été interrogé sur le rapport de la Commission consultative nationale des droits de l'homme.
Moi, par contre, ce que j'ai apprécié dans cette affaire, c'est que notre Ligue des droits de l'homme à nous, que j'ai souvent critiqué, je l'admets, mais là, je fais mon mea culpa, a été extraordinairement claire sur ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie. Et moi, je vais vous dire un truc. Quand je vois la Ligue des droits de l'homme nationale venir nous dire ce que nous, on a vécu, mais j'ai envie de dire, mais ça, c'est colonial. Voilà une position colonialiste sur la Nouvelle-Calédonie. Moi, ce qui compte, c'est ce que nous dit notre Ligue des droits de l'homme à nous, les Calédoniens qui ont vécu les émeutes, les Calédoniens qui ont vécu les blocages, les maisons brûlées, les entreprises brûlées, les mandoriens bloqués, les agressions à caractère raciste. Voilà ce que dit la Ligue des droits de l'homme locale. Donc, bravo à eux et merci d'avoir remis en place ces pseudo-experts de 22 000 kilomètres qui ne connaissent rien à notre pays.
Autre sujet d'actualité évoqué par Nicolas Metzdorf, les propos tenus lors de sa comparution par l'incendiaire de la maison de la famille Bull à Thiot.
Vous savez ce qu'il a dit, l'incendiaire de la maison des Bull à Thiot ? Il a dit « je ne regrette pas ». Parce qu'il considère que ce qu'il a fait est bien. C'est-à-dire qu'il considère que brûler une maison de blanc, c'est bien. Parce que ça les a fait partir de Thiot. Et ça en dit long sur, un, l'état de notre pays, deux, l'état de la radicalisation de l'indépendantisme radical dans notre pays, et trois, ça en dit long sur ce qui s'est passé sur la côte Est depuis 40 ans. Du coup, je me suis dit, mais on a la chance, en Nouvelle-Calédonie, de faire un recensement ethnique. Je suis allé sur le site de l'ISEE et j'ai regardé l'évolution ethnique des communes de la côte Est depuis 1976. On a perdu sur la côte Est, entre les Wallisiens et les Blancs, plus de 80% de notre population. C'est une épuration ethnique. C'est un exode forcé des populations non-kanaks de la côte Est. Pointimier, Touot, Wailou, Kanala, Thiot évidemment, Ponériouin. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui reste sur la côte Est ? Plus rien.
Nicolas Metzdorf qui affirme qu'il faut dénoncer cette épuration ethnique et cet exode forcé. Interrogé enfin sur les risques de division pendant les campagnes municipales, il souhaite qu'elles soient les plus propres possibles chez les partisans de la France.
Une interview de Nicolas Metzdorf disponible en audio et vidéo sur notre site internet rrb.nc. Elle sera rediffusée dans son intégralité ce soir. Ce sera juste après notre édition de 17h45. Au chapitre politique encore, l'éveil océanien tenait un conseil politique. C'était à Païta au doc socio-culturel hier. Le parti souhaitait faire le point avec ses militants sur les discussions parisiennes et notamment l'accord complémentaire Élysée-Oudinot. Il a ensuite présenté sa stratégie pour les élections municipales du mois de mars. L'éveil océanien présentera des listes à Païta, à Dimbéa et au Mont d'Or. Il sera présent également à Yaté et à Thiot, tandis qu'il soutiendra les listes de Patrick Robelin à Bouraille et de Steven Kaouda à La Foix. Plusieurs centaines de militants avaient fait le déplacement au doc socio-culturel de Païta. Et puis plusieurs dizaines de militants dissidents du Palika, de l'UPM et de l'UNID ont présenté leur nouvelle association UPK pour Unité du Peuple en Kanaky qui appelle, et je cite, à neutraliser l'accord de Bougival. Les membres de l'UPK envisagent d'intégrer le nouveau FLNKS et souhaitent que l'UPM, le Palika et l'UNID reviennent sur leur décision d'avoir quitté le front. Les picots et crabes ont été victimes de leur succès ce matin. Une semaine après la réouverture de la perche, de la pêche, les revendeurs ont été dévalisés, notamment au marché du 7e, qui organisait une édition spéciale pour l'occasion, Charlotte Coulson.
Eh oui, crabes frais, picots rayés, picots gris, les Calédoniens les attendaient depuis la réouverture il y a une semaine. Et ils étaient là, derrière les vitrines du marché au 7e kilomètre. Mais attention, pour avoir la chance de repartir avec un crabe ou un picot, il fallait se lever tôt ce matin. Jean travaille pour la poissonnerie du marché et en une demi-heure, il n'y avait déjà plus rien.
On n'avait pas assez pour vu le nombre de clients qui sont repartis avec rien. Ça dépend des marées aussi. Il y avait eu un mauvais temps aussi. On n'a pas reçu beaucoup de cam. On a eu 200 kilos, mais bon, il n'y a pas assez.
Et les 200 kilos, ils sont partis en combien de temps?
Même pas une demi-heure. C'est toujours pareil. Même on est content pour nous que voilà, les clients sont heureux aussi. Tout le monde, ils attendent les grammes et puis les picots depuis que nous étions fermés.
Et du côté des clients, beaucoup d'attentes pour acheter leurs picots ou leurs crabes. Et puis un peu de déception pour les quelques retardataires, mais qui ont tout de même pu se rabattre sur des produits cuisinés tout aussi bons.
Du coup, venir faire un petit tour, voir ce que proposaient les exposants. J'ai vu que c'était sur le thème du crabe et donc en fanat de crabe, voilà, je viens chercher les petites pépites.
Ouais.
Oui, il reste encore pas mal de choix. Donc là, je fais un premier tour pour repérer et ensuite consommer.
Bah, aujourd'hui, je suis venue parce qu'on nous avait dit qu'il y avait des picots. Donc, on était parti pour faire les picots, mais on est arrivé un peu trop tard. Donc, tant pis. Mais bon, le fait qu'il y a aussi les trucs indonésiens et je vois qu'il y a beaucoup de nouvelles choses et de la bonne nouveauté.
Ben là, oui, on a trouvé des picots grillés, donc ça, on n'en trouve pas partout. Et après, on a pris aussi des huîtres. On s'est rabattu aussi avec les huîtres parce qu'on n'en trouve pas à tous les marchés, donc va pour les huîtres.
Le marché du 7e kilomètre qui rencontre de plus en plus de succès, il se tient une fois par mois sur le parking du barbecue store.
Et à Nouméa, toujours, le Tropical Market se poursuit jusqu'à 14h. Il s'agit du premier rendez-vous de l'année 2026, mis en place sur les quais ferries. De nombreux artisans sont sur place et le public est heureux de venir sur le site pour pouvoir découvrir des créations originales.
C'est un petit marché très sympathique. En plus, il fait beau aujourd'hui. Et les artisans locaux, c'est sympa de rencontrer, de discuter avec eux et d'échanger sur ce qu'ils font.
Bah, c'est pas mal, hein. Ça permet aux gens de voir autre chose et tout. Et comme c'est de l'artisanat local, donc on permet de voir pas mal de choses aussi. Des idées cadeaux, plus pour la Saint-Valentin, ça peut être pas mal.
C'est sympa, en plus il fait beau, il y a du monde, c'est agréable, il fait pas trop chaud. Non, il y a tout ce qu'il faut pour tous les goûts, donc c'est super.
Super, au top, on a l'habitude, on vient régulièrement, donc c'est pour ça qu'on y est encore présent.
Des fidèles du rendez-vous.
Oui, exactement.
Il y a beaucoup d'artisans, c'est très bien.
Et le Tropical Market, premier rendez-vous de l'année 2026, ça se poursuit jusqu'à 14h, c'est au quai Ferry. Il est midi et 13 minutes, on va marquer une première pause dans ce journal dans un instant. L'actualité en métropole et dans le monde.
Samedi 14 février, c'est la Saint-Valentin. Pensez à réserver votre table au restaurant Le Fun au 28 67 08. Retrouvez les suggestions spéciales Saint-Valentin sur la page Facebook Le Fun.
Attention, plus que quelques jours avant le tirage au sort du million en bons d'achat sur RRB. N'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire. Envoyez maintenant RRB au 4020. Il n'y a pas de liste préétablie. Le ou la gagnante décidera comment dépenser son million. Et puis, il y a toujours 100 000 francs à gagner en bons d'achat. Si vous êtes le 1500e SMS, pile sur le compteur.
Alors n'hésitez plus. Envoyez maintenant RRB au 4020. Chaque SMS compte pour le tirage du million le vendredi 13 février à 14h. 371 francs par SMS. Règlement disponible à l'accueil de la radio. Saisissez votre chance, envoyez RRB au 4020.
Aquavena vous régale et vous fait gagner. Jusqu'au vendredi 6 mars, tentez de gagner vos repas Aquavena d'une valeur de 140 000 francs. Pour jouer, c'est simple, envoyez chance au 4020 par SMS. Aquavena, ce sont des produits frais de qualité avec des repas classiques, diététiques, sans gluten, végétariens, méditerranéens, low carb, pour une alimentation équilibrée et pleine de saveurs. À la carte ou en menu, livré chez vous ou à emporter, 7 rue Charleroi, téléphone 23 65 95. Commandez également en ligne et retrouvez-nous sur Facebook. Aquavena, le plaisir de bien manger. Alors prêt à vous régaler? Envoyez chance au 4020. Tirage au sort vendredi 6 mars à 14h, 371 francs par SMS. Bonne chance. Et sur RRB, il n'y a pas de jour sans jeu.
Radio Rythme Bleu, première partout, un point c'est tout.
La suite de votre journal avec Lionel Sabot.
Et Sébastien Lecornu défend sa méthode et dresse le cap des prochains mois dans un grand entretien qu'il accorde à la presse régionale. Après l'adoption définitive du budget, le Premier ministre revient sur les longs mois de discussions budgétaires. Il assume d'avoir négocié avec le Parti Socialiste et promet un remaniement d'ici 15 jours. Sébastien Lecornu évoque également les grands chantiers à venir. En revanche, il indique qu'il n'a pas prévu de s'engager pendant la campagne municipale, à la différence de Jordan Bardella, qui lui fait campagne. Le président du Rassemblement National était en déplacement ces dernières heures à Agde et à Carcassonne pour soutenir les candidats de son parti. Alexandre Chevaux pour Europe 1.
un bain de foule, des selfies et de nombreuses dédicaces de ses deux récents ouvrages à Agde puis Carcassonne. Jordan Bardella est accueilli en rockstar. Les deux villes sont des terres de conquête pour le RN aux prochaines municipales où le parti a un objectif clair.
Gagner un maximum de communes, prouver dans le cadre de ces élections municipales que le changement n'attend pas l'élection présidentielle.
Mais à quelques jours de la fin du procès en appel de Marine Le Pen, les esprits sont aussi tournés vers Paris. En cas de condamnation à une peine d'inéligibilité supérieure à 2 ans, Jordan Bardella le sait, c'est lui qui, à 30 ans, portera la candidature du RN en 2027.
Nos électeurs connaissent l'amitié, la confiance qui existe entre Marine et moi, et si la décision devait nous être défavorable, eh bien nous serons présents quoi qu'il arrive sur la ligne de départ, et je ne ferai pas davantage de commentaires.
Le président du parti, dans un rôle d'équilibriste, pour ne surtout pas apparaître comme un ambitieux pressé qui pousserait Marine Le Pen vers la sortie. Pourtant, après les réquisitions du parquet cette semaine, le scénario semble se dessiner, mais au RN, interdiction à ce stade d'évoquer trop fort une hypothèse qui propulserait Jordan Bardella au rang de candidat officiel et changerait à coup sûr le visage de la présidentielle.
Alexandre Chevaux du service politique d'Europe 1, Jordan Bardella qui a annoncé également, toujours sur la question des municipales, qu'il n'exclut pas de procéder à des listes d'union ou de rassemblement au second tour. Liste envisageable pour lui, et je cite, là où il y a un danger de voir l'extrême gauche s'emparer de municipalités. Fin de citation. Jack Lang a proposé sa démission de l'Institut du Monde Arabe. Il l'écrit dans une lettre qu'il a adressée au ministre des Affaires étrangères. L'Élysée dit avoir pris acte. L'annonce intervient au lendemain de l'ouverture d'une enquête du parquet national financier autour des liens supposés entre Jack Lang et Jeffrey Epstein. Epstein, c'est l'ancien ministre de la Culture qui réfute toutes les accusations portées contre lui dans cette affaire. Une nouvelle agression antisémite à Paris, elle s'est produite hier dans le 16e arrondissement de la capitale. 3 hommes portant une kippa ont été menacés par un individu muni d'un couteau. Une enquête a été ouverte pour violence avec armes et motivation religieuse. À Nice, c'est une femme qui a été menacée d'un couteau, cette fois-ci dans une église de la ville, par un homme de 28 ans. Individu de nationalité comorienne en état d'ivresse. Il a été interpellé et placé en garde à vue pour violence aggravée. Et c'est dans ce contexte de violence supposément religieuse, il y a un chiffre particulièrement éloquent qui a été publié jeudi dernier dans le magazine Elle. 58% des jeunes âgés de 15 à 17 ans jugent inacceptable de critiquer une religion. Chiffre qui monte à 81% chez les jeunes croyants, toutes religions confondues. Des chiffres qui n'étonnent pas Antoine-Marie Izoard, c'est le directeur de la rédaction du magazine Famille Chrétienne.
C'est une génération qui a été biberonnée à la liberté d'expression. Alors peut-être qu'il y a un trop-plein. Ils considèrent que la religion est une affaire privée, ces ados. Et à mon sens, il y a un ras-le-bol. Ils sont plus en recherche d'un enracinement qui semble être religieux, en recherche d'identité. Ils n'ont pas envie que ces repères qu'ils ont trouvés ou qu'ils trouvent, dans la religion en particulier, eh bien soient raillés, soient attaqués.
Antoine-Marie Izoard, le directeur de la rédaction du magazine Famille Chrétienne. Dans l'actualité encore et dans notre grande série, décidément, on vit une époque formidable, enfin presque. À l'université de Limoges, des jeunes hommes se sont permis de sécher les cours. Alors, rien d'extraordinaire. Sauf qu'ils se sont appuyés sur un dispositif assez audacieux. Écoutez bien, ces garçons ont profité d'un congé menstruel accordé dans cette faculté sans aucune distinction de genre. Laura Legault pour Europe 1.
Depuis le 1er octobre, l'université de Limoges autorise jusqu'à 10 jours d'absence par année scolaire en cas de règles douloureuses. Ce n'est pas la seule université qui propose ce dispositif. Une dizaine d'établissements l'a également mis en place, comme la faculté d'Angers ou l'université de Bretagne occidentale. À Limoges, ces absences sont à déclarer en ligne, pas besoin de fournir de certificat médical. Et elles sont ouvertes à tous, selon les mots du vice-président de l'université. Ce dispositif est ouvert à chaque personne menstruée, sans distinction de genre, pour éviter une stigmatisation. Un dispositif qui a donc facilement été détourné par certains élèves. En décembre, les enseignants constatent qu'une cinquantaine de garçons inscrits en cursus d'ingénierie ont séché des cours de cours grâce à ce dispositif. Les malins ont été rappelés à l'ordre. Une lettre de recadrage leur a été envoyée par la vice-présidence de l'université, précisant qu'un congé menstruel ne voulait pas dire un congé mensuel.
Quand on vous dit qu'on vit une époque formidable, il est midi et pratiquement 20 minutes. Une dernière pause dans un instant. Toute l'actualité sportive.
Bureau Vallée. La rentrée sans stress commence sur bureauvalet.nc. Vous commandez votre liste scolaire en ligne et on vous la livre gratuitement directement sur votre lieu de travail. Des 5000 francs d'achat à Nouméa, Dimbéa et Mondor.
Bureau Vallée, on met la barre très haut et les prix très bas.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
La fin de votre journal avec Lionel Sabot.
Et on va parler sport avec les JO d'hiver de Milan-Cortina, Michael Juneschi. La première journée de compétition s'est achevée sans médaille pour le camp tricolore. Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Oui, et la sensation du jour, c'était surtout en ski alpin, la victoire sur l'épreuve de la descente du Suisse Franjo Van Almen devant les Italiens Giovanni Franzoni et Dominique Paris, alors qu'un autre Suisse, Marco Odermatt, lui, qui faisait partie des favoris, a terminé quatrième côté français. Seul Nils Allègre a terminé dans le top 10. Pour le moment, hein, au tableau des médailles, c'est l'Italie qui est en tête, à égalité avec le Japon et la Norvège. Déjà 3 médailles, une en or, une en argent et une en bronze pour chacune de ces nations qui devancent la Suède et la Suisse. Les choses pourraient bien changer dès ce soir pour le camp français avec l'entrée en lice, notamment des tricolores en biathlon sur le relais mixte et notamment le français Éric Perrault, actuel leader de la Coupe du Monde de la discipline.
Ah, c'est sûr que ça me met dans une posture qui est confortable. Alors, en tout cas, j'ai pu montrer que j'avais la forme, en tout cas pour être performant. Maintenant, on sait qu'en biathlon, il va falloir reproduire ça. Chaque passage au pas de tir nous remet en cause. Mais en tout cas, ça fait plaisir d'avoir engrangé pas mal de confiance avant de venir ici.
Autre grand espoir de médaille ce soir pour les Français en patinage de vitesse, messieurs, puisque le détenteur du record du monde sur 5000 mètres est un tricolore. Il s'agit de Timothy Loubineau.
On passe au football, Mickaël. 21e journée du championnat de France de Ligue 1 qui a donné lieu à de belles affiches ce dimanche. Lens et Lyon poursuivent leur marche en avant.
L'Olympique lyonnais tout d'abord qui dépasse provisoirement Marseille en 3e position dans le classement et ce grâce à son succès difficile aujourd'hui sur le terrain de Nantes 1-0. Les Lyonnais qui ont passé la fin de la rencontre à 10 contre 11 après l'expulsion d'Hendrick, ils obtiennent tout de même les 3 points précieux de la victoire qui leur permettent de dépasser l'OM. Et de son côté, le RC Lens aussi l'a emporté cette fois contre Rennes 3-1 en terminant aussi le match à 10 contre 11 après l'exclusion d'Aguilar. Mais les Lensois reprennent donc la tête du championnat de France, provisoirement, on le répète évidemment, oui, puisque tout dépendra désormais du classique, le classico qui s'annonce important demain entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille, le PSG qui voudra certainement évidemment reprendre la place de leader, alors que l'OM fera tout pour remonter sur le podium du championnat de France. On dirait bien que c'est là le quatuor de tête qui va désormais batailler jusqu'au bout pour jouer les premiers rôles cette saison sur les pelouses de Ligue 1. Un dernier résultat enfin aujourd'hui, le derby des Bretons qui aura vu les joueurs de Brest l'emporter sur Lorient sur le score de 2-0. Alors il restera encore à suivre demain matin les rencontres Nice-Monaco, Le Havre-Strasbourg, Auxerre-Paris FC, Angers-Toulouse et donc ce fameux PSG-Marseille à partir de 6h45 ce lundi.
Bah vous êtes arrivé à expliquer. Moi j'ai essayé pendant 5 minutes à 11h pendant les titres, j'y suis pas arrivé. Allez, on passe au rugby avec la suite du tournoi Destination.
Performance, engagement, dépassement de soi, entrez dans la mêlée et les pages spéciales Tournoi Destination sur Radio Rythme Bleu avec l'OPT. OPT, le monde à portée de main.
Et les jeux sont faits à l'issue de la première journée de compétition, mais rien ne va plus. L'Angleterre prend les commandes du classement.
Les Anglais qui ont écrasé le Pays de Galles sur le score sans appel de 48-7. 7 essais à la clé sur la pelouse de Twickenham. L'Angleterre qui vire donc d'office en tête du tournoi Destination devant la France et l'Italie qui est troisième. Les Italiens en effet l'ont emporté sur l'Écosse de Finn Russell sur le score de 18-15 grâce notamment à 2 essais inscrits dans le premier quart d'heure de la rencontre. On rappelle que vendredi matin, le 15 de France avait lui décroché une victoire importante sur l'Irlande, 36-14. Et puis, notez également que chez les moins de 20 ans, les Bleuets, tenants du titre, jouaient aujourd'hui face aux Irlandais. Bonne nouvelle pour l'équipe de France jeune qui l'a emporté sur le score de 50-21.
Jusqu'au 14 mars, suivez le tournoi Destination sur Radio Rythme Bleu avec l'OPT. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
Un mot de l'actualité sportive côté calédonien. On va continuer de parler rugby, mais à 7 cette fois-ci, Mickaël.
En effet, puisqu'en Australie, pour la 4e étape du circuit mondial, on rappelle qu'Anaïk Kouagny est avec l'équipe de France qui a terminé 2e de la poule B avec des victoires sur les Canadiennes 24-12 et les Anglaises 42-10, mais une défaite face aux aux Australiennes 26-12. La Calédonienne et les Bleus joueront cet après-midi la demi-finale contre les Néo-Zélandaises à partir de 15h13 sur les pelouses australiennes. Après une 5e place le week-end dernier à Singapour, notre représentante a de solides chances de monter sur le podium. En karaté, pas d'exploit pour notre vice-champion de France junior, Mathieu Tozemen. Au championnat d'Europe jeune, il s'est incliné au second tour de la compétition en individuel chez le moins de 63 kilos. Et enfin, au football dans la région, je rappelle que Germain Ewegene, Potin Poma et Joseph Attalé joueront avec leur club du Tahiti United cet après-midi, la 6e journée de l'OFC Pro League. Ils feront face à l'équipe du Boula FC. Coup d'envoi de la rencontre à 16h30.
Et puis, sur le territoire, il y avait du bras de fer hier, c'était au Mont d'Or.
Une compétition de 1-1 qui était organisée par le New Generation Arms Wrestling à la salle de Boulari. Oui, pardon pour la prononciation, je ne l'ai pas très bien dite ce midi. La 7e manche donc de ce tournoi, 10 participants qui étaient en lice, notamment ceux qui préparent un déplacement en métropole pour les championnats nationaux de la discipline. Ça fait 4 ans que les Calédoniens n'y ont plus participé. Écoutez, Raymond Matetao, il est le vice-président du club NGA et président de la Ligue de bras de fer en Calédonie.
D'ailleurs, c'était plus des duels entre ferristes licenciés, parce qu'on voulait lancer cette partie-là, parce que le mois prochain, on envoie des ferristes en France pour les championnats de France, sur le mois de mars, le 6, 7, 8. Et non, on ne voulait pas laisser le club, les autres licenciés à part. En fait, donc, on a lancé cette démarche-là, le 1-1, on appelle ça. Parce que le 1-1, c'était plus des duels en 5 manches. Celui qui fait 3 manches, ben, il remporte. Ça permet de, aussi de les motiver pour reprendre le boost. C'est pour eux le premier événement et nous le second événement pour ceux qui partent en France. À chaque 1-1, ben, ça fait des classements pour chaque catégorie de poids. Et ça permet de voir ce qui est le numéro 1 jusqu'au bout. Quoi. Chaque année, ben, il y aura un classement, ce qui est le plus fort. Comme on dit, l'orgueil, ça joue beaucoup dedans le bras de fer. Ça permet de monter les niveaux. C'est ce que je recherche le plus.
Raymond Matetao, le vice-président du club NGA, président du bras de fer en Calédonie, le New Generation Arm Wrestling, la deuxième prise est la bonne, qui propose, notez-le par ailleurs, des sessions d'initiation pour les personnes intéressées par la discipline.
Merci beaucoup en français, Mickaël Juneski, pour cette page sport.